9h, 11h, le club de l'été. Lise Pressac.
Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans le club de l'été, un club ouvert à tous les gourmands et à tous ceux qui aiment partager leur coup de cœur pour un livre, pour une pièce, un artiste ou même une série. Nous avons 2 heures pour parler de culture et de gastronomie avec à mes côtés Sophie Massieu, experte tourisme et culture, et Sophie Mounz, experte gastronomie. Bonjour à toutes les deux.
Bonjour les amis.
Bonjour Lise, bonjour à tous.
Comment ça va aujourd'hui?
Fort, fort bien. À la une ce matin
que vous êtes ravis, Sophie Mounz.
On les a inspirés, les amis du Parisien.
Mais oui.
Il faut redonner du goût à nos tomates. Lisez ça, c'est passionnant.
Vous êtes une source d'inspiration pour nous tous, Sophie
Mounz. Et sinon, le podcast d'Europe 1 de la semaine dernière, pendant une semaine, on en a parlé. Hein.
C'est vrai, tout à fait, exactement. Sophie Massieu, vous nous emmenez en Savoie aujourd'hui, où exactement?
Alors en Haute-Savoie, plus exactement, on ira faire un tour dans un cirque.
Ah, vous aimez bien garder un petit peu de suspense.
Mais oui, évidemment, vous commencez à me connaître.
C'est un cirque, mais il n'est pas question de clown, voilà, c'est tout ce qu'on peut dire.
Oh.
Sophie Mounz, en Savoie, on mange quoi?
Du reblochon. Oh,
très bien.
Oui, je vous le ferai découvrir et même goûter. Et puis, épisode 2 de notre saga confiturière. Aujourd'hui, de la confiture de courgettes.
Ah, et très bien.
Ah, c'est super bon.
Ah oui, super bon.
Ah oui, nous non, vraiment.
Ouais, oui,
j'adore. En vrai.
Nous
Maman,
aurons deux
si
heures.
Si tu nous entends, tu peux en faire.
L'appel est lancé. Hein. Au cuisine maintenant, tout de suite. Nous aurons 2 heures pour parler de notre patrimoine culturel et gastronomique. Soyez les bienvenus dans ce club de l'été. N'hésitez pas, évidemment, comme d'habitude, à réagir. Ça se passe sur Twitter avec le hashtag Europe 1. Nous sommes ensemble en direct jusqu'à 11h.
9h, 11h. Le club de l'été sur Europe 1. Lise Pressac.
Notre invité est écrivain, il est niçois et aime la Savoie. Autant vous dire que c'est une personne de confiance, portrait sonore.
Il faut souligner la qualité tout à fait extraordinaire des dialogues. Qui sont signés par...
Par Didier Van Kovelaert, qui est un
écrivain.
Un écrivain qui a l'âge de Patrick, puisqu'il vous racontera des choses
rien,
sur lui.
Après. Rien,
non,
parce je ne raconterai plus rien.
Ils étaient au service militaire ensemble, tous les deux.
Comme un tourbillon de neige, comme un vent.
Grâce à ce qu'on appelle des expériences de pensée, Albert Einstein a fait une découverte incroyable. La matière courbe le temps et l'espace. Le physicien de génie l'appelle la théorie de la relativité générale. Comment un homme qui travaillait enfermé seul dans son bureau a-t-il réussi à révolutionner tout ce que nous pensions savoir de l'univers?
Je compris que j'avais affaire à quelqu'un du genre que je préfère, un fantôme du beau sexe.
Une valse à trois temps, qui s'offre encore le temps, qui s'offre encore le temps de s'offrir des détours du côté de l'amour, comme c'est charmant une valse à quatre temps. C'est beaucoup moins dansant, mais tout aussi charmant qu'une valse à trois temps, une valse à quatre temps, une valse à 20 ans.
Bonjour Didier Van Kovelaert.
Bonjour.
Nous sommes très heureuses de vous recevoir dans ce club de l'été sur Europe 1. Vous avez publié cette année La personne de confiance aux éditions Albin Michel. On va évidemment en reparler plus longuement tout à l'heure. Mais est-ce que, pour commencer, vous pouvez nous dire ce que vous avez entendu dans ce portrait sonore?
Ah, il est très émouvant ce portrait. D'abord, ça a commencé par les trompettes d'Aïda. C'est vrai que Verdi est un compositeur d'une énergie, pour moi, complètement extraordinaire. Je me réveille souvent le matin très tôt avec un peu de Verdi pour nettoyer.
C'est pas votre sonnerie téléphone, c'est ce que vous allumez.
Ah, non, c'est je me réveille sans téléphone. Et ensuite Georges Lautner. Mon premier scénario pour le cinéma, c'était La maison assassinée.
Exactement.
Dont il était question avec Patrick Bruel, en compagnie de qui j'ai fait mon service militaire. Oui,
oui, quand on parlait de Patrick,
c'est vrai, c'est pas une légende.
Quand on parlait de Patrick dans l'extrait, c'est Patrick Bruel.
Et c'est là, en fait, on cherchait pour le rôle principal de La maison assassinée. Alain Poiret, le producteur de La Gaumont, ne voulait pas d'un réalisateur connu. Daniel Auteuil, il y avait d'autres, mais il voulait vraiment créer la surprise avec ce jeune qui revient de la guerre de 14, qui découvre toutes les horreurs qui sont passées chez lui, dans sa famille. Et Patrick Bruel, il avait fait juste un rôle dans le film d'Arcadie, et puis c'est l'époque où il avait sorti la chanson « Marre de cette nana ». Alors quand je dis à Alain Poiret, une fois que j'ai l'idée, il me dit « Ouais,
il est pas convaincu.
Chanteur pour Minette, pour jouer... » Un poilu qui revient à la guerre de 14. Faisons des essais. Et là, Patrick a fait les essais. J'avais fait travailler pendant qu'on faisait notre service militaire. Et là, tout de suite, Alain Poiret et Georges Lautner ont dit c'est lui.
Ça a été évident.
Ouais.
Oui, c'était un extrait de l'émission spéciale cinéma qui a été présentée par Christian Defay à la télévision suisse romande.
Et vous D'accord.
Il est sur le plateau, Patrick Bruel, avec notamment justement Georges Lautner. On a également entendu le générique des aventures de Rabbi Jacob. C'est un film culte pour vous ?
Oui, je pense que c'est peut-être le film que j'ai vu le plus dans ma vie. Parce que chaque fois qu'il repasse, et Dieu sait s'il repasse
souvent.
Moi aussi,
je fais pareil.
Je me laisse avoir. Parce que, outre le bonheur de retrouver l'énergie de Funès, ce génie complètement à part, il y a la construction du film, la rapidité du récit. Et là, c'est une claque à chaque fois par rapport à... Je trouve que le rythme du cinéma, c'est ralenti quand on voit ça, notamment des comédies. Et en plus, il y a un fond derrière tout ça qui est une actualité sans cesse revisitée et renouvelée. Et c'est tout ce que j'aime, c'est-à-dire une comédie qui fait réfléchir, qui réconcilie tout en exposant les vrais clivages... C'est vrai.
Et ce qui est fou, c'est qu'on a beau le voir 52 fois, je trouve que ça vieillit pas.
Oui, parce que la précision de ce que fait De Funès et la sincérité dans la précision font que c'est pas simplement du dialogue culte, des scènes cultes, ce sont des moments de vie d'un niveau, en plus d'un culot. C'est sûrement des vitamines, ce film.
Alors, on a aussi entendu un extrait d'un documentaire sur Einstein, parce que je sais que c'est quand même un personnage qui vous fascine.
Einstein, j'y ai consacré plusieurs livres. Le dernier, c'était « J'ai perdu Albert » et le film que j'ai tourné ensuite. Donc, Einstein est quelqu'un qui me fascine aussi bien par son génie lumineux que par ses zones d'ombre. Et il est aussi intéressant dans tous les aspects de son caractère, de sa vie, dans ses intuitions incroyables, ses obstinations parfois un petit peu pénibles, et son attitude envers les femmes qui est tantôt extraordinaire, tantôt le comble de l'horreur, et en même temps pour aider les femmes, notamment la mère de ses enfants, à se libérer de lui. C'est-à-dire, derrière ce qui apparaît vraiment, il avait fait un règlement comme un règlement de copropriété pour la vie de couple avec sa femme. Un truc tellement odieux.
C'est terrible.
Mais c'était destiné vraiment à lui dire, bon, savez, nous avons terminé, donc détache-toi de moi. Alors oui, il a fait ce qu'il a pu pour ça, mais c'était assez horrible. Oui, mais derrière ce côté horrible, il y a une vraie générosité. Et puis, il a été par ailleurs, l'argent de son prix Nobel, il le lui a donné alors qu'ils étaient séparés. Il l'a donné. Donc, il n'est pas résumable.
C'est un personnage complexe.
À des
quoi.
Actes. Ouais. Il est complexe, il est très attachant. Il a un humour extraordinaire, une autodérision. Et puis, ça a été l'un des premiers défenseurs de la cause féministe et de la cause des Noirs. C'est le premier, dans les années 30 aux États-Unis, qui, notamment à Princeton, il y avait une chanteuse noire qui devait se produire. Et puis, aucun hôtel ne voulait d'elle. Il l'a accueillie chez lui, de manière ostentatoire. Les mauvais esprits rajouteront qu'elle était très jolie. Mais justement, ça fait partie de ça aussi. Il n'y avait pas qu'un acte de militantisme assez rare à l'époque. Il y avait aussi le fait de célébrer la beauté, quelle que fût sa couleur.
Et alors, on a aussi entendu Le fantôme de Georges Brassens. Je crois que c'est une chanson que vous aimez bien siffler ou fredonner. Alors, d'ailleurs, vous étiez à deux doigts de le faire tout à l'heure.
Bien sûr. Ouais. Brassens, c'est lui qui m'a appris à écrire à 7-8 ans. Je connaissais toutes ses chansons par cœur. Même tout ce que je ne comprenais pas, dans le côté très libertin, très sexe et tout, le gorille, tout ça, je la chantais sans tout comprendre, mais quand même...
Il y a plusieurs niveaux de lecture.
Je comprenais par les réactions que ça provoquait autour de moi. Quoi. Et puis ouais, Le fantôme, c'est une chanson merveilleuse.
Et il y a également eu Michel Legrand, mais on en reparlera tout au long de cette émission.
Ouais, mon grand ami, ouais, Michel Legrand. Et puis Jacques Brel, ça c'est pour la Belgique.
Évidemment.
Hein, je parle sous le contrôle.
Évidemment, la valse à mille temps.
Et c'est vrai que mes racines belges, au niveau de l'humour, du fantastique, réaliste et tout ça, sont très présentes. Et il y a des traces. Moi qui suis né à Nice, avec cet héritage lointain, je n'ai cessé de le réactiver. Et par exemple, quand on se moquait de mon nom belge à l'école, tout ça, au lieu d'essayer de faire couleur locale, J'apprenais le flamand tout seul dans un petit dictionnaire de poche.
Je chantais près
en flamand.
J'adore. On aime ça. Dites, on peut quand même juste leur dire en
France. Wipe the wind, the storm wind.
On vous aime. Eh ben, c'est super, mais nous, on a la moitié du studio est perdu là.
Vous êtes en train de vous faire coloniser les Français.
Oui, c'est
là.
Ça, dis donc. Sophie, il faut qu'on résiste, hein, Sophie Massieu.
Oui, mais on a une Hongroise avec nous, vous savez,
voilà,
sous la table.
Donc, on va poursuivre toute cette discussion. Je vous propose d'écouter juste avant Ice Cream de Mika sur Europe 1. C'était Mika sur Europe 1. Le club de l'été se poursuit jusqu'à 11h avec notre invité, l'écrivain Didier Van Kovelaert. À tout de suite.
Le club de l'été sur Europe 1.
9h, 11h.
Lise Pressac.
Il est 9h25 et nous sommes toujours en direct sur Europe 1. C'est la suite du club de l'été avec notre invité, l'écrivain Didier Van Kovelaert. N'hésitez pas à réagir sur Twitter avec le hashtag Europe 1. Alors Didier Van Kovelaert, vous avez publié La personne de confiance. J'ai toujours peur de trop en dire quand je raconte un livre. Bon, c'est l'histoire de Max. Un jour, il, avec son camion grue de la fourrière, il lève une voiture. Le truc, c'est qu'il y a quelqu'un dedans, en l'occurrence une certaine Madeleine Larmor-Pleben, qui est la mamie Larmor d'une célèbre marque de biscuits. Et le livre débute, on est dans une garde à vue. Je sais pas trop quoi dire pour ne pas en dire trop.
Ah bah, tiens, je vais vous le pitcher à l'envers. C'est l'histoire d'une...
Allez-y.
C'est l'histoire d'une vieille dame qui choisit un jeune inconnu pour la défendre contre sa famille qui essaie de la faire passer pour folle, afin de s'emparer de son entreprise. Ça vous va, là?
Oui, c'est bien aussi dans ce sens-là.
Et ce qui m'intéresse, c'est justement les accidents de la vie, la circulation en l'occurrence. Qu'est-ce qui peut se passer entre un conducteur grutier de la fourrière et la personne qu'il découvre à l'intérieur de la voiture qu'il vient d'enlever? Et là, déjà, c'est catastrophe. Parce que c'est un motif de renvoi immédiat.
Bah, donc, forcément, oui.
On est censé vérifier que la voiture est déserte avant de l'enlever. Mais lui, comme il est trop pressé pour avoir le...
C'est sa première prise du matin, en plus.
Ah ouais,
alors on dit
plus,
que la journée...
Et c'est le roi du rendement à la fourrière Foch, quoi. Il a les primes de rendement.
Lui qui a le plus de papillons.
Exactement. En plus, les papillons, pour gagner du temps, il les colle lui-même.
Bah oui,
normalement, c'était celle qu'on appelait autrefois les pervenches, qui collaient le papillon enlèvement demandé. Là, il le fait lui-même. Il se demande à lui-même d'enlever la voiture et hop, zing, crack, boum. Et il a le record de vitesse d'enlèvement. Mais là, s'il rapporte une voiture garnie à la fourrière, il est viré tout de suite. Il ne va pas non plus sortir la vieille et l'abandonner sur un banc, ce n'est pas son genre. il ne peut pas non plus décrocher la voiture et la remettre parce qu'il y a des mouchards à bord des 4x4 de la fourrière.
Donc on sait, on laisse les voitures.
Donc là, il a un dilemme important.
Ouais, seule solution, il y a une clinique tout à côté. Il la désire, je la dépose aux urgences. Je dis que j'ai trouvé sur la voie publique, démerdez-vous. Et je ramène la voiture, ma prise de guerre à la fourrière. Sauf que, à ce moment-là, quand il aborde un interne pour lui dire, ah là, j'ai une vieille dame, et que l'interne lui dit, vous avez sa carte vitale. Déjà, ça le coince un peu. Oui, parce que c'est vrai qu'on n'examine plus les gens avant de... On préfère lire d'abord leur carte
vitale. Leur dossier informatique voilà. Avant de s'en
Donc,
occuper.
Donc, le temps qu'il ouvre la porte pour chercher les papiers, la vieille dame jaillit et lui dit, et dit à Max, « Ah, Victor, enfin, ils t'ont libéré. » Et elle le prend pour son amant de la Deuxième Guerre mondiale, car c'était une héroïne de la Résistance. Et la manière dont il va réagir à ce moment d'apparence... décrochage de la conscience, Alzheimer ou pas. On découvrira que c'est un Alzheimer provoqué par une interaction de médicaments.
De médicaments, oui.
Et la manière dont il réagit en jouant son jeu, parce qu'il ne veut pas se vergoler, il est dans une position délicate. Quand après elle reprend ses esprits, elle va voir cette confiance immédiate dans ce type qui a la gentillesse, l'empathie, la roublardise nécessaire pour arriver à se sauver de la situation dans laquelle sa famille l'a mise pour s'emparer de son entreprise et la vendre, et alors qu'elle a prévu de la donner à son personnel. Ce qui m'intéresse, c'est de casser les barrières de la société, la barrière entre les âges, entre ce gamin des banlieues et cette vieille dame qui était une aide cuisinière gamine pendant la guerre, enrôlée pour espionner les Allemands, partie de rien. Après la guerre, elle crée... Une marque de biscuits artisanale qui prend une ampleur terrible. Et puis, toute cette énergie, toute cette force de frappe de cette femme qui sont intactes et qu'on essaie de briser justement pour lui voler ce qu'elle a créé, ça va totalement bouleverser ce gamin. Et en même temps, le rôle qu'elle lui demande de jouer, ça va...
Et en même temps, pour la première fois, quelqu'un a vraiment besoin de lui.
Ouais, phrase du livre, c'est on croit qu'on ne sert à rien sur Terre jusqu'au jour où quelqu'un vous demande l'impossible.
Alors, comment est née l'histoire de ce roman? Un jour, vous voyez une voiture se faire enlever, vous vous dites, tiens, qu'est-ce qui pourrait en découler?
Oui, ça, c'est une des parties de l'inspiration. Vous savez, c'est un assemblage, un livre, toujours. Il y a ce genre de scène, moi, je suis toujours à l'affût de ce que la réalité me raconte ou me donne envie de raconter. Et un jour, je me dis, ah oui, si jamais il y a quelqu'un... Dans la voiture, il se passe quoi? Et puis par ailleurs, en mangeant les biscuits d'une célèbre marque où on l'a enlevé d'ailleurs le logo de la vieille dame sur la mère Poulard. Là.
Oui, c'est vrai.
Et mon temps, je me disais, est-ce que c'est vraiment
cette personne
la fondatrice? Ou est-ce que c'est une comédienne qui incarne la pub? Parce que c'est une vieille taupe modèle, quoi. C'est un peu la question que se pose Max quand il reconnaît la vieille dame de ses galettes du matin. Et puis un jour, je me dis, tiens, et si ces deux-là se rencontraient dans cette situation?
Ça veut dire qu'il faut un petit grain de folie pour écrire, Didier?
Sophie Massieu.
Ah ben, il faut plusieurs grains.
Oui, ouais,
il faut des gros grains. Mais l'écriture, c'est de la folie, non pas maîtrisée, mais mise
organisée.
En forme, ensuite. Et là, c'est tout... j'ai des dispositions d'esprit quand je suis gamin pour ça. Et puis après, je l'ai travaillé depuis sur cette souplesse qui permet d'émouvoir et de faire rire dans une même phrase, et qui permet d'entraîner les gens à partir de repères complètement réalistes, dans des situations complètement dingues, mais qui restent toujours crédibles. Et travailler cette crédibilité, ça c'est tout le boulot de l'artisan écrivain.
Ouais. On va continuer d'en parler de ce livre Didier Van Cauwelaert, et vous allez aussi partager avec nous vos coups de cœur culturels. A tout de suite sur Europe 1.
9h, 11h, le club de l'été sur Europe 1.
Brad Pitt qui nous écoute, bien sûr, comme Roger Federer.
Moi je te dis tout net, t'as pris le melon.
C'est vrai.
Lise Pressac.
Mais il nous écoute, Brad.
Mais évidemment, merci beaucoup Loïc pour ce jingle personnalisé. Nous sommes de retour en direct sur Europe 1 pour le club de l'été avec notre invité, l'écrivain Didier Van Cauwelaert. Quand on vous a demandé quel était votre coup de cœur culturel, vous nous avez parlé du concert Sans Ravière Love Michel Legrand qui a eu lieu le 27 juillet. C'était au festival de Sans Ravière près d'Alicante en Espagne avec Nathalie Dessay notamment. Et puis on a voulu passer cet extrait-là.
Il ensoleille ma vie. L'absence et l'indifférence, je me suis battue contre toute la France, la seule convaincue de notre innocence, c'est moi.
Alors c'est Le Sommeil Bleu, la chanson de Dreyfus chantée par Rachel Pignot sur une musique de Michel Legrand, Didier Von Cobbart.
Ouais, j'ai écrit pour
et pas
Michel
seulement,
Legrand.
Des textes de Didier Von Cobbart.
Cet opéra, c'est merci, hein, c'est la voix de Rachel complètement bouleversante.
C'est magnifique.
C'est pour moi la plus grande, avec Nathalie Dessay dont on parlait, la plus grande chanteuse aujourd'hui. Rachel donc incarne Lucie, la femme du capitaine Dreyfus, dans cette chanson. Voilà, ouais. Elle exprime son, à la fois son combat et puis et ben le jeu qu'elle joue auprès de ses enfants pour faire comme si leur papa allait revenir bientôt alors qu'il est au bagne normalement et dont il ne devrait jamais ressortir pour cette monstrueuse erreur judiciaire provoquée, programmée par l'armée française pour protéger le vrai traître. Et donc on en a fabriqué un faux puisque le but est de passer de fausses infos aux Allemands et donc il faut dénoncer quelqu'un pour détourner l'attention, quoi. La modernité de cette affaire, les rouages intellectuels de tous les responsables sont ceux qui nous gouvernent aujourd'hui partout, quoi. Le cynisme absolu et puis les drames humains et les ressorts des facultés de rebondissement extraordinaires, notamment de Lucie Dreyfus, qui était une de ces calmes héroïnes qui doit gérer à la fois les enfants, le combat et de la justice, de tenir son rang, convaincre les journalistes. Voilà, c'était Dreyfus, on l'a créé à l'Opéra de Nice 2014 et ça s'est joué une bonne 60 fois. C'était un extraordinaire succès. On va le reprendre à Paris dans la saison prochaine. Et voilà, Michel Legrand, c'est un ami de 30 ans. Je suis très ému quand j'en parle parce que l'énergie de Michel, elle est d'une incroyable présence chaque jour. Je l'entends vraiment parler dans ma tête et avec ses impatiences de jeune homme qu'il a conservé jusqu'à plus de 80 ans. Et là, on va créer, outre Dreyfus et Le Passe-Muraille, qui était notre première collaboration, on a écrit L'Amour Fantôme, qui va se créer dans un an, sans doute à Liège, avant Paris. Et là, je travaille avec Patrice Perrieras, qui faisait, c'est lui qui organisait la direction musicale.
Oui, qui est au piano.
Du Festival de Saint-Ravière, qui était un concert extraordinaire. Et Patrice, c'était vraiment... C'est la voix, la conscience, la passion de Michel. Ils ont travaillé depuis des dizaines d'années ensemble. Et Patrice était là, la direction musicale de tous les ouvrages de Michel, dont ceux que nous avons fait ensemble, bien sûr. Et là, on s'est rejoué l'autre jour l'ouvrage. C'était extraordinaire parce que non seulement Michel était là par sa musique, mais il était là par tout ce que nous avons vécu ensemble, Patrice et moi, autour de lui, et c'est terriblement en vie, quoi, tout ça. Et je raconte juste une petite chose qui m'a beaucoup touché par rapport à ce concert dont je vous parle, c'est que Patrice jouait notamment une suite symphonique du Messager qu'avait écrit Michel Legrand. Et bon, il avait beaucoup travaillé naturellement, c'était important après la mort de Michel de faire entendre cette musique de cette manière-là. Et là, tout à coup, il est en public, son piano, et tout à coup, il ne voit plus rien. Il a un problème de glaucome. Et là, il me dit, alors la panique, je ne peux plus voir la partition. Et là, il me dit, mes doigts ont joué tout seuls. Et là, Sophie Massieu, évidemment, comprend et sait de quoi on parle là, à un moment donné où
les... Même si je ne suis pas musicienne.
Non, mais c'est-à-dire que le corps, la mémoire, les sens, lorsqu'un sens ne répond plus, les autres prennent le relais et on se demande l'impossible. Et donc,
décuplés quelque
on
part.
On l'obtient et là, et il est quand même très inquiet, Patrice, d'avoir loupé des trucs. Et il a réécouté après le concert la bande. Et il me dit, j'avais un sourire jusqu'à là parce que je crois que je ne l'ai jamais joué aussi bien.
Aussi bien.
Et puis il a été opéré dès le lendemain d'urgence, deux trous dans l'œil au laser pour supprimer ce problème de tension excessive. Et voilà, c'est peut-être aussi un cadeau de Michel Legrand, depuis l'au-delà, d'avoir continué à faciliter les choses et à permettre à un musicien d'être son vecteur aujourd'hui.
Et merci de nous avoir permis justement ce matin de parler de lui et de parler de sa musique. Et dans le Club de l'été, vous l'aurez compris, on aime partager nos coups de cœur culturels. Et ce qui est appréciable, c'est que nos auditeurs aussi sont formidables. Ils aiment communiquer leur passion, leur enthousiasme pour des expos, des livres, des artistes. Et ce matin, c'est Laura Maille qui nous fait l'amitié d'être en ligne avec nous. Bonjour Laura Maille.
Bonjour Lise, ça va ?
Ça va très bien, et vous ?
Parfaitement.
Alors ce matin, vous avez envie de nous faire connaître une autre musique, autre ambiance, un groupe électro-bédouin. On va écouter un petit extrait de Sabri Mosba. Racontez-nous un petit peu l'histoire de cette musique et puis de ce coup de cœur, comment il est venu.
Alors, ça, c'est le tout dernier single de Sabri Mosba, qui n'est pas tout à fait un inconnu, hein, parce qu'il avait. Donc, c'est un chanteur tunisien qui a grandi dans le quartier du Bardo, dans une famille très bohème, parce que son père est un chanteur très célèbre en Tunisie qui s'appelle Slah Mosba, qui est un chanteur noir et qui a toujours pris des positions antiracistes très fortes parce que c'est un problème qui n'est pas encore tout à fait réglé en Tunisie, le racisme anti-noir. Donc son fils a un petit peu hérité de ses positions politiques, mais surtout de sa passion musicale. Et lui est un Toulousain d'adoption qui a voulu faire connaître les rythmes tunisiens et surtout leur mélange et leurs influences. Il a sorti un album en 2017 qui s'appelait Asni, qui a été assez remarqué, ça veut dire mes racines. Et les critiques disaient que c'était un peu du folk rock tunisien, mais c'est beaucoup plus métissé que ça, parce qu'il a réussi à rajouter le hadra soufi, du malouf tunisien, et donc on redécouvre un petit peu que cette Tunisie n'est pas finalement de culture arabe à l'origine, mais de culture méditerranéenne et le seuil de l'Afrique. Et dans ce nouveau titre-là, dont vous êtes en train de...
Et les thèmes, c'est l'immigration aussi, c'est des thèmes très actuels.
Absolument, voilà. Donc c'est le... Alors déjà, c'est en tunisien dialectal, donc c'est assez rare de pouvoir faire entendre cette langue en dehors de la Tunisie. Et Havlidi, qui est son tout dernier single qui a été posté la semaine dernière sur YouTube et qui a déjà des milliers de visionnages, c'est l'histoire d'un père qui dit à son fils ne prends pas la mer, n'émigre pas, parce que vous savez bien que depuis quelques années les Tunisiens quittent le pays en masse, et surtout les jeunes qui partent sur des petites barques à travers la Méditerranée qui risquent leur vie. C'est un père qui rappelle son fils et qui lui dit reviens au pays, ton pays a des choses à t'apporter. Donc c'est très beau, le clip est superbe. Et c'est un chanteur qui, je crois, va faire du bruit avec son électro bidouin, parce qu'en plus, il passe à l'Olympia le 29 septembre.
C'est un concert voilà. One Night in Tunisia, et il y aura également Swad Massi en invité spécial. Donc voilà, si vous êtes parisien ou de
qui
passage
n'est pas
à Paris,
pour le coup,
qui est algérienne. Mais voilà, c'est un concert. Si vous êtes de passage à Paris, vous aurez l'occasion de le voir sur scène. Merci infiniment, Laura Maï. Vous savez que vous êtes toujours la bienvenue dans ce club de l'été. Merci d'avoir partagé cette musique ce matin avec nous.
Merci.
À bientôt. Dans un instant, on va continuer de partager nos coups de cœur avec notre invité, l'écrivain Didier Van Kovelaert. À tout de suite sur Europe 1.
Europe 1, le club de l'été. Lise Pressac.
2 heures de direct tous les matins de 9h à 11h avec mes acolytes Sophie Massieu et Sophie Muntz. Et ce matin, c'est l'écrivain Didier Van Kovelaert qui nous accompagne. Alors quand on vous a demandé quelle était votre série préférée, vous nous avez répondu ça. Alors, vous l'aurez sans doute reconnu, le générique des Envahisseurs. Vous pouvez nous résumer l'intrigue pour les plus jeunes qui nous écoutent, parce que la série date de 67. Vous étiez tout petit quand vous la regardiez.
Bah oui, c'est une première série. Ça et Chapeau Melon et Bottes de Cuir.
Ah, oui.
C'était vraiment, j'ai hésité entre les deux. Et c'est vrai que les Envahisseurs, bon, c'est la première fois qu'on parlait des extraterrestres d'une manière aussi crédible. Et ce qui est très intéressant sociologiquement, dans la manière dont la série est conçue, c'est que ils sont déjà parmi nous. Le cauchemar a déjà commencé, comme disait le générique La Voix. Excellente version française, hein, c'est pas toujours le cas.
C'est vrai,
mais
c'est
la version française était... Il y avait vraiment un sérieux, un côté sans être dans le pathos. C'était vraiment bien fait, super crédible. Et en fait, ça posait le problème de la collaboration pendant la guerre. Là, il y a des infiltrés parmi nous, il y a des extraterrestres qu'on reconnaît, ça c'était la chose qui aurait pu être ridicule et qui marchait très très bien. Ils ont un petit doigt rigide, c'est
oui.
le qui permet de découvrir. Alors, ils cachent un petit peu. Mais à côté de ça, toute l'infiltration au niveau du monde politique, culturel, de l'armée, tout ça, entre ceux qui résistent, ceux qui collaborent, ceux qui ne croient pas. Et puis Roy Thinnes, Qui joue David Vincent, formidable acteur, qui était un peu le sérieux Steve McQueen, quelque chose de à la fois clair, solaire, et puis qui toujours confronté à la solitude de celui qui a raison, qu'on veut pas écouter, et qui à chaque fois il a la preuve, et puis pof, la preuve lui échappe, et c'était à la fois jubilatoire et anxiogène.
C'est vrai.
Et alors, ce qui est rare, c'est que j'étais complètement emballé quand j'étais gamin, mais quand je le revois aujourd'hui,
vous
ça
l'avez revu,
exactement.
Didier Vincolo, c'est vrai.
Oui, je revois. Oui, j'ai le coffret, j'en regarde périodiquement. Et là encore, l'addiction, elle est. Ah oui, la série n'a pas vieilli du tout. Au contraire, la manière dont on a traité les extraterrestres, à part le coup de génie de Spielberg dans E.T., est souvent un peu ringarde par rapport à celle-là, où il y a un minimum d'effets spéciaux, mais ils sont parfaitement maîtrisés. Et puis, ça pose surtout le problème psychologique vraiment intéressant.
Alors, dans un autre genre, vous vouliez également nous parler de cette série. Alors moi, je la connaissais pas, j'avoue.
Boston Justice.
C'est une série.
C'est la meilleure série du monde.
Ça. Ah, c'est vrai. Alors racontez-nous. C'est une histoire d'avocat et d'amitié entre deux hommes qui ne sont pas du même cabinet.
Elle est tellement bien, elle est tellement irrévérencieuse, provoque, politiquement incorrecte, sexuellement incorrecte.
Tout est incorrect.
Mais sauf le talent. Attends, il y a un talent là-dedans. Il y a une écriture. Elle passait sur 13e rue en France. Là aussi, j'ai tous les coffrets, mais vraiment, acheter les coffrets. C'est la série la plus drôle, la plus poignante. Il y a notamment, c'est la première fois qu'on... Il y a un des avocats, c'est l'histoire d'un cabinet complètement foutraque, dirigé par Candice Bergen, qui a été une merveilleuse salope et qu'il est resté, tout en étant une bonne copine, une roublarde terrible. Et il y a alors cet acteur que je trouvais un peu débile quand il jouait, vous vous rappelez Hooker, cette série qui passait tout le temps sur TF1, il faisait le flic, c'était un peu tartouille. Et là, William Shatner, il joue ce rôle de vieil avocat complètement obsédé sexuel, hypochondriaque, qui est persuadé d'avoir la vache folle et qui a en même temps a été un avocat extraordinaire. Et on lui passe tout, et c'est d'une irrévérence, c'est extraordinaire. Et dedans, il y a aussi un des autres avocats qui est un asperger, complètement coincé dans le rôle d'avocat, justement, qui doit plaider, qui ne plaide bien quand il a une cigarette en bois, et qui tombe amoureux d'une autre asperger qui, elle, a une relation sexuelle avec un grille-pain. Enfin, tout ça.
Vous avez donné envie de dire votre commentaire.
Et en plus, mine de rien, c'est complètement déjanté. Il y a James Spader, qui est lui un acteur totalement génial, qu'on a revu dans Blacklist récemment et tout. Et le lien entre cet avocat plus jeune et ce vieux ténor, à la fois ramolli et complètement endurci par le Viagra que joue William Shatner, c'est une histoire d'amitié complètement improbable avec ces deux mecs qui font des soirées pyjama. Mais c'est extraordinaire. Et à côté de ça, les affaires qu'ils défendent posent les grands problèmes d'aujourd'hui sur les mensonges de l'armée américaine, sur le problème d'homosexualité, notamment dans l'armée et ailleurs, comment arriver à lutter contre les discriminations et tout. Et puis la procréation médicale assistée. Tous les grands sujets d'aujourd'hui sont abordés avec un culot et un talent qui me bluffe.
Ouais, elle a été diffusée en 2006, mais c'est toujours d'actualité. Justice, ça nous fait une série de plus à regarder. Il va falloir vraiment
une série belge.
C'est ce que j'aime aussi quand les Américains ont l'humour belge. Ça donne Boston Justice.
Alors, je ne sais pas si ça va vous plaire, Didier Van Kovelaert, mais moi, de mon côté, je voulais vous conseiller un documentaire qui a été diffusé dimanche soir sur Arte, qui est disponible donc en replay. Being Hasselhoff, c'est un documentaire dans lequel l'acteur David Hasselhoff revient sur sa carrière. Il raconte notamment comment il a quitté un rôle phare dans le feuilleton Les Feux de l'Amour pour accepter de jouer aux côtés d'une voiture parlante dans la série K2000.
Je ne pensais même pas que ça pouvait exister, un rôle aussi cool. J'ai appelé mon père. « Papa, j'ai eu le premier rôle dans une nouvelle série. » Ça parle de quoi ? C'est l'histoire d'une voiture qui parle. Il m'a demandé si j'avais bu. Tu as lâché Les Feux de l'Amour et un salaire annuel de 40 000 $ pour faire ça ? Et j'ai répondu oui.
Alors, ce qui est génial, c'est qu'il a assez de recul et d'humour sur sa propre personne, David Hasselhoff. Il a connu un tournant assez crucial dans sa carrière alors qu'il jouait les sauveteurs avec Bouée Rouge dans la série mythique Alerte à Malibu. Il apprend que son tube Looking for Freedom caracole en tête des ventes en Autriche et il met alors les voiles pour l'Europe. I've been looking Alors, je sais pas si vous vous rappeliez de cette chanson, mais en fait, il devient une icône dans les pays germanophones. Et ce titre, sorti en 89, devient l'hymne entonné par des milliers d'Allemands souhaitant la réunification. C'est un parcours finalement assez incroyable qu'on découvre ou qu'on redécouvre dans ce documentaire qui est donc disponible en replay sur arte.tv. Vous regardiez K2000, Didier Van Cauwelaert ?
Oui, j'étais pas vissé devant ma poste, mais bon, comme j'aime bien les voitures, mais c'est vrai que...
J'ai pensé à vous, je me suis dit ça tombait bien en fait, parce qu'il est question de voitures, alors pas seulement de fourrière qui lève des voitures, mais vous parlez de la DeLorean notamment dans le bouquin, donc on sent que ça vous a marqué aussi.
Oui, les liens qu'on craque des voitures.
Celle de Retour vers le futur, je précise.
Voilà, et puis la voiture la plus extraordinaire du cinéma et de la littérature, c'est Christine, l'extraordinaire invention de Stephen King avec cette voiture qui ne parle pas,
mais qui fait beaucoup plus peur que
de la jalousie, un sentiment de possessivité et tout, et réussir à faire peur avec des objets tout à coup qui ont une charge d'âme, c'est très très bien. Le film est magnifiquement réalisé en plus.
Vous pourriez écrire sur quelqu'un de réel, parce que je sais que vous vous inspirez de ce qui peut se passer devant vos yeux, mais David Hasselhoff, qui a une vie assez romanesque, ça pourrait être le point de départ d'un bouquin.
Par exemple, mais après une chose, je savais pas du tout que c'était lui qui avait fait cette chanson-là. Oui. J'ai le souvenir de ces images du mur de Berlin et tout ça, avec l'hymne. Voilà, il y a eu deux moments musicaux, c'était Rostropovitch, et puis avant, c'était lui, quoi. C'était cette musique. Moi, j'adore les gens qui sont sortis, de leur contexte, de l'image qu'on leur colle. C'était vrai que c'était le petit acteur ringard avec l'œil un peu concon. Ouais. Et puis, on découvre toutes ces possibilités qu'il a et puis son autodérision. C'est bien.
Non, je vous le recommande vraiment. Et puis en plus, on se rend compte qu'il a lâché quand même un rôle où il gagnait vraiment beaucoup, très bien sa vie pour Les Feux de l'amour, pour partir pour cette aventure. Et donc, c'est assez incroyable. Et il a l'air ringard comme ça, mais en fait, il a beaucoup de recul sur lui-même. Donc, c'est vraiment très bien. Dans un instant, Didier Van Cauwelaert, Elsa Lévy va nous rejoindre. C'est une revue de presse féministe, des féminines décalées. À tout de suite.
9h, 11h. Le club de l'été sur Europe 1.
Prendre ta douleur.
Tu chantes très très juste, avec une puissance qui est remarquable.
Ah, c'est vrai ?
Non, je déconne.
Lise Pressac.
Oh, et pourtant, je peux chanter encore plus faux que ça, je vous assure. Il est 9h51 sur Europe 1. Le club de l'été se poursuit avec notre invité, l'écrivain Didier Van Cauwelaert. Je vous présente Elsa Lévy.
Bonjour.
C'est bon ?
Bah oui.
Alors, Didier Van Cauwelaert, moi je présente une revue de presse de la presse féminine. Et c'est comme ça que je suis tombée sur une de vos interviews de décembre dernier dans le bimensuel Féminin Bio. Alors, c'est pas forcément le magazine le plus lu, mais il est écolo. En tout cas, plein de logos en dernière page le prouve. L'épaisseur du papier aussi, très épais. Et donc, il est cohérent avec votre interview dans laquelle on comprend votre rapport à la nature, aux plantes, à l'environnement et aux abeilles. Vous avez d'ailleurs sorti le livre « Les abeilles et la vie ». À ne pas confondre avec la série Le miel et les abeilles. Et j'y pense parce que j'ai lu hier dans Le Figaro TV Mag que la comédienne Mallory Nataf, une des héroïnes du sitcom, reviendra à la rentrée dans Les mystères de l'amour.
Ah bon ?
Une série dérivée de.
Hélène, je m'appelle
Hélène et les garçons.
Oui, Hélène et les garçons.
Absolument. Et donc, on comprend aussi votre volonté de sensibiliser les enfants à la problématique des abeilles. Savez-vous ce que veut dire l'expression avoir les abeilles ?
Non,
je ne connaissais pas.
Avoir les abeilles.
Ouais, ça veut dire être en colère.
D'accord.
Voilà, très, très, très utile.
Ouais, d'accord. Et sinon, pour en revenir à l'idée d'éduquer la génération future sur les abeilles et autres causes environnementales.
Bah justement, c'est une excellente idée. Je pense même que c'est la clé. Moi, par exemple, j'ai grandi avec une souris verte.
Ah oui.
Ces messieurs me disent, trempez-la dans l'huile.
Voilà.
Moi aussi, j'ai grandi avec ça.
Et trempez-la dans l'huile, trempez-la dans l'eau, c'est une technique de torture,
ni
plus ni moins.
C'est vrai.
Alors, on nous apprend ça à l'école et après, on s'étonne qu'on maltraite les souris dans les laboratoires de cosmétiques et que certains éclatent des poulets contre les murs dans les abattoirs. Eh ben, ils ont peut-être juste grandi avec une souris verte.
Ouais, c'est peut-être
en tout
ça l'explication.
Cas, quand on était petit, on ne nous a pas spécialement sensibilisés à la cause animale, ni à la planète, et on ne nous a pas vraiment appris à être écolo à l'école.
Non, c'est vrai.
Du coup, quand la question se pose et s'impose à l'âge adulte et qu'on doit changer toutes nos habitudes de vie et de consommation, ça peut créer une certaine culpabilité et même parfois un ras-le-bol.
Ouais, c'est vrai qu'on sent une saturation parfois, on ne sait plus comment se comporter. Est-ce que vous avez des conseils, Elsa ?
Alors, il y a un article très édifiant dans Elle,
intitulé
Écolo, mais pas trop, pour nous permettre justement de déculpabiliser. Par exemple, la chroniqueuse nous parle de la climatisation. Elle écrit « Je martèle toute l'année que la clim devrait être autorisée que dans les EHPAD et encore que les EHPAD où les vieux sont mignons.
Oh. »
Voilà, chacun son humour. En revanche, en été, elle reconnaît avoir du mal à faire sans la clim, mais elle craint les réactions de ses amis à qui elle fait la morale toute l'année. Alors, comment faire, dit-elle ? Eh bien, j'allume la clim quand tout le monde dort. Écolo, mais pas trop. Donc.
Voilà, on a bien compris le titre de l'article, du coup. Hein.
Très intéressant encore. Sinon, pour l'avion, elle dit « Depuis que la génération montante défile avec ses panneaux culpabilisants et ses slogans affolés, j'ai percuté. Sauf que c'est trop tard, j'ai déjà mes billets. Alors, comment faire » dit-elle. « Eh bien, j'ai trouvé la parade. Je dis à mes enfants qu'on va en Crète, en train, bus et bateau. Ça prendra 6 jours. J'ai regardé leur tête, ils avaient cessé de respirer. Et là, j'ai sorti les billets d'avion. Ils ont re-respiré. »
D'accord.
Voilà, solution à tout. Pareil pour les bouteilles d'eau en plastique. Elle conseille de zapper l'eau et de passer directement au rosé, car les bouteilles sont en verre.
Ah oui, oui.
Elle refuse qu'on lui parle
bon conseil,
de sujets plombants, qu'on lui dise plutôt qu'il y aura toujours des glaçons à mettre dans son rosé. Sinon, du côté de Madame Figaro, là, on est chez les grands rebelles, puisqu'il y a l'article Vive l'anti-bio.
Ah oui.
Je lis « On a le droit de partager un paquet de bonbons fluo avec nos ados pour être enfin une mère cool. » Et donc faire voler la vedette peut-être à... Voilà.
Ah oui,
on en est là quoi. Il y a que le magazine Avantage qui lui s'entête à être écolo puisqu'il nous permet de gagner ce mois-ci un lave-linge appelé Zen qui permet de faire jusqu'à 50% d'économie d'eau et d'électricité. Écolo donc. Mmh. Alors c'est bien d'être écolo, mais offrir un lave-linge aux femmes en 2019 et le mois dernier des aspirateurs,
oui.
C'est surtout rétrogrado.
C'est ça. Il y en a d'autres qui veulent qu'on reste écolo.
Oui, je suis retombée sur un numéro de Biba de mai dernier.
Ah oui, vous avez des belles archives.
Mais oui, toujours. Biba qui nous propose de faire quelque chose d'assez fou pour sauver la planète, il faut arrêter de mater du porno.
Ah.
Voilà le rapport. Hein, eh bien, il semblerait que 35% des vidéos visionnées quotidiennement sur Internet équivalent à 150 millions de tonnes de dioxyde de carbone.
Mais ça, c'est vrai pour le coup. Ouais. C'est important la sobriété numérique.
Oui, après, bon, c'est juste le lien avec le porno. Émises dans l'atmosphère chaque année, soit presque un tiers des émissions de gaz à effet de serre du trafic aérien et 75 vidéos, c'est là où c'est moins fou, de ces vidéos
75%,
sont, visionnées,
ouais.
75%, pardon, sont visionnées par les hommes.
Ah.
Et c'est là que Biba ajoute « N'accablez pas les hommes trop vite car les vidéos de chatons sont après le porno les plus visionnées sur Internet. » Conclusion, je suis une nana, donc je mate des chatons, j'ai que ça à foutre.
Voilà, c'est ça.
Et les hommes diminuent. Écolo, rétrogrado.
Oui, voilà. On est toujours dans le rétrogrado, hein, on est d'accord.
Voilà. Bon, on voit bien
rétrogrado.
Ouais, c'est ça. Complètement rétrogrado. On voit bien qu'on nous dit un peu tout et n'importe quoi sur notre conscience éco-responsable. Alors, dans toutes ces infos, je me dis qu'il revient à chacun de faire son propre tri sélectif.
Oui.
Car il ne faudrait quand même pas laisser la connerie nous polluer davantage. Donc, qu'on soit rassurés pour les abeilles en voie d'extinction. Avec tout ça, on risque de les avoir pour un petit moment.
Oui, merci Elsa Lévy. Un rétrogrado, moi je vais la garder cette expression parce que je pense qu'on peut la ressortir à pas mal de sauces. Didier Van Kovelaert, vous traitez aussi de sujets très actuels dans ce roman, on en parlait, à la fois l'abus de confiance, aussi la solitude, les relations amoureuses, quels que soient aussi les âges. Comment est-ce qu'on arrive à faire un assemblage de tout ça dans une intrigue ? C'est quoi le bon dosage ?
C'est la sincérité, quoi. J'écris sur ce qui me passionne ou ce qui m'énerve ou me fait rêver et que j'ai envie de partager. Donc, les histoires d'amour qui tout à coup ont besoin d'un renfort extérieur pour exister. C'est le cas à Max. Oui. Il est amoureux de sa voisine du dessus, qui est une de ses héroïnes d'aujourd'hui, qui est étudiante en pharmacie, qui...
Samira, elle a une poigne incroyable.
Ouais, qui fait le coup de poing entre les islamistes et les recruteurs et les dealers. Et en même temps... Elle anime l'association Action Senior pour faire du sport aux vieux, pour bouger. Et bon, elle s'occupe de toute la lutte syndicale et étudiants pour faire des amis en télafac. Donc, elle n'a pas 2 minutes pour se laisser dragouiller par un timide voisin du dessous, qui en plus, lui, comme son père est en plus médecin, la manière dont qu'il ose l'aborder, c'est de lui ramener un toxico quand il en trouve un dans la cage d'escalier, quoi, comme on offre des fleurs. Et là, tout à coup, il tombe sur cette vieille dame en dérangement. Quoi. Il a l'air d'être une Alzheimer provoquée par des médicaments. Et il appelle aussitôt, il a enfin un prétexte. Et il lui emmène quelqu'un d'intéressant pour elle. Quoi. Et là, ça va être vraiment, la vieille dame va être le trait d'union entre tous les deux. Et puis, quand elle découvre cette vieille dame, Samira, à 70 ans d'écart, en fait, elle se rend compte que c'est la même. C'est la même combattante, c'est la même générosité offensive. Et ça, c'est vraiment ce qui m'intéresse, cette découverte de quelqu'un qui, avec qui on a des choses à faire, qui vous ressemble et qui est aux antipodes de la société et de la pyramide de l'âge.
Et qui est transgénérationnel, ouais. Et peut-être que ces personnes ne se seraient justement jamais rencontrées, ouais. sans cette fourrière, sans cette grue. On va reparler de tout ça, vous restez avec nous évidemment, puisque le club de l'été se poursuit jusqu'à 11h. A tout de suite sur Europe 1.
9h, 11h, le club de l'été. Lise Pressac.
Bienvenue dans la deuxième heure du club de l'été sur Europe 1. Nous sommes toujours en direct et jusqu'à 11h pour partager nos coups de cœur culturels et gastronomiques. Vous n'hésitez pas à réagir sur Twitter avec le hashtag Europe 1, notamment si vous avez un message ou une question pour notre invité, l'écrivain Didier Van Kovelaert. Alors Sophie Massieu, vous nous emmenez en Savoie ce matin. Où exactement est-ce qu'on va en savoir un petit peu plus? À chaque fois, j'essaye de gratter des infos.
Ouais, c'est ça. Bon, allez, d'accord. Vous me la payez combien d'infos?
Oh, dites donc, vous êtes comme ça.
Ouais, je suis comme ça.
Vous êtes vénale, mince, ouais. Alors.
Cirque du fer à cheval.
Ah, j'adore. Bon, bah, rien que le nom, ça me fait déjà rêver. Et Sophie Moons, vous nous proposez d'aller manger du fromage.
Emblème de la Savoie,
le reblochon.
Bravo, vous connaissez vos classiques.
9h, 11h.
Le club de l'été sur Europe 1.
Lise Pressac.
Didier Van Kovelaert, je vous propose de prendre une machine à remonter le temps. Elle permet de voyager dans votre vie en musique. Alors, savez-vous, par exemple, quelles chansons on écoutait à la radio à l'été 1960, année de votre naissance? On était sur quel genre de choses?
Oh, puis il y a beaucoup. Il faut que je...
Oh non, mais c'est une idée. On va l'écouter de toute façon.
Ah ben, en 60, il y avait France Gall. Non, c'est dans ces 66.
Oui, peut-être. Mais là, on est très précis parce que c'est l'été. 60, alors.
L'été 60, France, en France.
Oui, on écoutait ça.
Ça ne m'a pas marqué.
C'est trop petit.
C'est Bob Azam et la chanson s'appelle Mustapha. Voilà, on l'a exhumé.
Oh là là là, ouais, c'est vraiment...
Et en 1982, c'est ça. En 1982, alors que vous publiez votre premier roman à l'âge de 22 ans intitulé 20 ans et des poussières. Le tube de l'été, c'était ça. Imagination.
Ça c'est
déjà mieux. Music and Lights. Et enfin, en 1988, quand vous écrivez les dialogues du film La Maison Assassinée, dont on parlait tout à l'heure, à la radio, on entendait beaucoup ça. Ah, on l'a pour la journée en tête, là.
Ça reste
en tête. Vous, Didier Van Kovelaert, alors on sait que vous écoutez Verdi, Brassens, Brel, Legrand. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui...
Ah, Barbara, c'était d'abord une grande amie, une grande rencontre de ma vie aussi. Et puis après c'est très éclectique, c'est vraiment un son qui va venir à ma rencontre, que j'ai envie de retrouver après. Et puis des chansons qui sont liées à des moments de la vie. La mémoire affective se repose tellement bien sur les chansons et provoque des choses. Voilà, c'est...
Il y a une chanson que, si vous l'entendez, ça vous provoque la même émotion à chaque fois. Il y en a une particulièrement?
Alors, des émotions douces, des émotions fortes. Il y en a une, par exemple, que je ne peux jamais, enfin presque jamais écouter jusqu'au bout, tellement elle est violente, c'est Les Vieux de Jacques Brel.
Ah, incroyable. Oui,
non. D'accord. C'est d'une telle précision, il faut vraiment être de très très bonne humeur, être très amoureux, ça se passe bien. Et là, on accueille cette émotion en plus. Mais sinon, ça vous casse, c'est extraordinaire. Et puis, j'ai une passion pour Laurent Voulzy, par exemple, qui est quelqu'un en plus, il a la même voix aujourd'hui. C'est extraordinaire comme il est. Il y a un état de grâce chez ce chanteur. Et voilà, je pense à Belle-Île en mer, je pense à... et avec Souchon, c'est un couple merveilleux de la chanson.
Et les deux, regardez leur voix.
La colle musicale, comment ça s'appelait déjà le titre de cette chanson? Enfin, C'est pour moi le contraire de la mièvrerie, c'est la douceur énergisante.
C'est vrai. Et vous écoutez de la musique quand vous écrivez ou pas?
Jamais.
Avant et après,
et puis en roulant, et je roule beaucoup.
Mais jamais pendant l'écriture?
Non, c'est pas possible. J'ai ma musique intérieure et j'écris à voix haute pour la musique des phrases. Donc,
évidemment.
Je peux pas faire de doublon.
Ça pourrait se péricliter. En tout cas, je vous propose, après le voyage en musique, de partir pour de vrai. Enfin, un peu, on va se télétransporter en Savoie, région de cœur, donc de vous, Didier Van Kovelaert. Ce sera à tout de suite sur Europe 1.
9h, 11h, le club de l'été sur Europe 1.
Lise Pressac.
Nous sommes toujours en direct sur Europe 1, il est 10h11 et nous sommes ensemble jusqu'à 11h avec notre invité, l'écrivain Didier Van Kovelaert et mes acolytes Sophie Massieu et Sophie Muntz. Alors avant d'aller faire un petit tour en Savoie, c'est l'heure de votre journal de la culture, Sophie Massieu. Et ce qui est bien l'été, eh bien, c'est qu'on peut buller.
Oui Lise, en parlant des bulles de bande dessinée évidemment.
Ah bah oui. Pas les bulles de champagne.
Non, alors j'ai un peu honte d'avoir écrit ce jeu de mots tout pourri.
Mais
vous l'avoir mis dans la bouche en plus, franchement. Mais
pas
bon.
Du tout. Moi, j'adore les jeux de mots
vous
pourris.
Vous assumez, super.
Complètement. J'assume tout, moi, vous savez.
J'adore. Quoi qu'il en soit, je vous invite ce matin à découvrir la patte de Jack Kirby, qui a notamment dessiné un grand nombre de super-héros. Hulk ou Captain America, oui. Par exemple, c'est lui. Alors, le musée Thomas Henry de Cherbourg-en-Cotentin a rassemblé un grand nombre d'objets originaux pour cette exposition intitulée « La galaxie des super-héros ». Alors moi, je vous conseille une visite commentée. Hein, il y en a une aujourd'hui, ça tombe bien, à 16h. Et puis, il y en aura deux autres, sinon les 17 et 27 août. Attention, il faut les réserver. Mais bon, vous pouvez aussi visiter l'exposition tout seul, hein, comme des grands. Et du coup, dans ce cas-là, vous avez jusqu'au 28 août. C'est donc au musée d'art Thomas Henry, esplanade de la laïcité à Cherbourg-en-Cotentin. Il en coûte 5 euros ou 3 euros selon que vous bénéficiez ou pas d'un tarif réduit. Le musée est ouvert du mardi au vendredi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h. Et puis le week-end, c'est de 13h à 18h.
Chouette, bon, on ira. Mais maintenant, on part dans le Loir-et-Cher, Sophie.
Oui. Oui, à la rencontre des troupes de danse venues du Daghestan, des États-Unis, de Sardaigne, du Paraguay. Bref, des troupes qui sont les invitées du Festival international de folklore de Montoire-sur-le-Loir qui ouvre ses portes aujourd'hui. Ce village, il est entre Blois et Vendôme. Vous situez ?
Oui, je vois à peu près. Hein, ouais, ouais.
Voilà. Alors, le point d'orgue, ce sont surtout les soirées où l'on peut voir ces compagnies pratiquer des danses traditionnelles dans des vêtements et des costumes qui le sont tout autant. Notons par exemple une soirée latine avec le Paraguay, les États-Unis, je ne sais pas en quoi les États-Unis sont latins, mais enfin, et la République dominicaine, ça c'est le 14 août à 21h, donc demain, ou alors Chico et the Gypsy pour une soirée gitane,
ah, chouette.
Ça c'est prévu le 16 à 21h également. Et en journée, Lise, sur ces rythmes endiablés, vous pouvez vous perfectionner en danse, vous qui adorez
ça. Chouette.
Et, ouais. Et donc vous pourrez participer à des stages à 10h30 pour devenir au choix une pro de la danse du Paraguay, ça c'est demain,
ouais.
Mercredi 14. De celle de Macédoine du Nord, ça c'est vendredi. Et oui, on est précis.
Oui, hein, bah, c'est très précis.
Absolument, la Macédoine du Nord, c'est pas... Voilà. Et, ou alors de la danse du Liban, samedi.
Je vais prendre la Macédoine du Nord parce que j'ai aucune idée de à quoi ça peut ressembler, donc ça me tente bien.
Allez, je vous accompagne. En tout cas, le Festival international du folklore de Montoire-sur-le-Loir, c'est d'aujourd'hui à dimanche. De nombreuses formules et forfaits d'abonnement sont disponibles. Et puis, prises séparément, les places coûtent globalement de 11 à 21 euros pour les adultes.
Alors pour terminer ce journal, nous allons à Nice.
Oui, oui, oui. Alors c'est pas complètement hasard, c'est un peu pour faire plaisir à notre invité, évidemment.
Merci Sophie.
Mais aussi parce que la ville fête cet été les 100 ans des studios de la Victorine. On parle donc cinéma parce que bien sûr, Nice a accueilli de nombreux.
Mais pas que Brise de Nice
hein,
qu'on entend en ce moment.
Non. Et dans le cadre de la Biennale des Arts, 6 musées en fait présentent chacun une exposition autour de ce 7e art et notamment pour illustrer les liens entre cet art-là, le cinéma, et certaines autres formes d'art en particulier. La photo, l'ensemble est visible jusqu'au 30 septembre et dès l'aéroport, en fait, il y a de grandes photos qui nous accueillent. Vous les avez vues, Didier Van Kovelaert, en
oui,
allant
oui,
là
oui.
Récemment.
Et puis j'ai eu la chance de tourner à la Victorine pendant 15 jours et ces studios, c'est extraordinaire. Et là, la renaissance des studios que la ville... Alors, la ville de Nice a fait un truc très culotté, c'est que ces studios qui étaient... la gestion était faite par des gens privés, c'était un peu aléatoire, on va dire, pour être poli. Et là, la ville a fait une régie, c'est-à-dire, alors que d'habitude on privatise, là, eh ben non,
c'est l'inverse.
Comment on peut dire, c'est pas nationalisé, c'est municipalisé.
Voilà, mais... oui. En tout cas, remis dans le service public.
Et en plus, parce que ce sont des terrains qui sont, évidemment, le but c'était de raser tout et de faire des immeubles. Hein, c'est au-dessus de l'aéroport, ça vaut une fortune. Et là, c'est pérennisé, c'est sanctuarisé. C'est-à-dire on ne pourra jamais faire autre chose que du cinéma sur ces lieux-là. Donc merci vraiment à Nice, à la ville de Nice, de nous garder cet outil qui est extraordinaire. Le niveau des techniciens, les infrastructures, et puis le bonheur de tourner là où Hitchcock, ont tourné... Voilà.
Oui, puisque vous avez tourné dans ces studios, du coup, ils ont quelque chose de particulier pour vous, il représente quelque chose d'important.
Oui, à la fois cette mémoire de tout ce moment, c'était une poche de résistance aussi du cinéma où il fallait quand même faire des films, malgré la compagnie collaborationniste qui était la Continental, et il fallait quand même faire entendre la voix de la France. Donc il y a eu tout un rôle très important historique de ces studios aussi, à côté de tout, bien sûr, le folklore mythique. Mais aujourd'hui, c'est pas qu'un lieu de mémoire, c'est vraiment un lieu d'avenir où se tournent beaucoup de films américains, de séries américaines, et de plus en plus de projets français. Et voilà, j'ai perdu Albert là-bas dans des conditions qui étaient formidables, et j'espère y retourner bientôt.
Alors on va vite voir Anis toutes ces expositions.
Et Anis, vous y allez souvent, Didier Van Kovelaert?
Oui, alors j'ai la chance d'avoir une ville natale où il se passe tellement de choses sur le plan culturel que j'y vais pas uniquement pour revoir le peu de famille qui me reste ou des lieux d'enfance. J'ai la chance de créer là-bas la pièce Le Rattachement avec Alexandra Lamy, Mélanie Douté, Samuel Labarthe, de créer Dreyfus à l'Opéra de Nice avec Michel Legrand, de tourner mon film, et j'y vais souvent pour une opération culturelle qu'a inventée la ville de Nice, qui est Lecture pour tous. Ce sont des écrivains qui vont dans les écoles, les collèges, les lycées, les hôpitaux, les prisons. Montrer un peu que la lutte contre l'illettrisme, c'est aussi montrer qu'un écrivain, c'est quelqu'un de vivant, c'est quelqu'un qui ressemble aux autres, qui est accessible, qui a une passion à partager, et des outils techniques qu'il peut mettre à la disposition de ceux qui ont envie de raconter des histoires, dialoguer, qui pensent ne pas en avoir les capacités. Et grâce à François-Olivier Gisbert, Patrick Besson, Irène Frein, Jean d'Ormesson, Alexandre Jardin, tout ça, vraiment, on y va tous. Il y a 30 auteurs par an qui vont, et c'est un programme chargé. On passe d'un CM1 à une classe de seconde, à un EHPAD, c'est vraiment
Et qu'est-ce que ça vous apporte à vous? Parce que vous leur apportez quelque chose. Qu'est-ce que, en fonction du public que vous avez en face de vous, ça vous permet aussi de prendre la température de la société.
Les étincelles qui s'allument dans le regard d'un jeune, d'un enfant, d'un vieux ou d'un détenu, lorsque tout à coup vous évoquez une histoire, comment on se sort de tel ou tel problème à travers l'expression, la littérature, le théâtre aussi. Daniel Benoît aussi a fait entrer le théâtre, et les comédiens vont aussi dans ces cadres-là. La culture et les animaux, c'est quand même la médiation numéro un pour briser les solitudes, les espoirs, les situations de violence dans les prisons. C'est pas un des projets de Bisounours, ça marche. Et puis, il y a des gamins. En même temps, on fait un concours de nouvelles, d'écriture de nouvelles pour les écoliers et les collégiens dont je préside le jury. Et l'une de nos lauréates, par exemple, ensuite s'est retrouvée sur la liste du Goncourt du premier roman, 8 ans après. Je veux dire, tout est possible. Et c'est Nice qui a inventé ça. On attend impatiemment que d'autres villes fassent la même chose. Ça marche, on est heureux de le faire. Et on a un retour qui est tellement fort. Et Nice, on a une image carte postale d'une ville privilégiée. Mais c'est l'endroit en France où il y a le plus d'immigration variée. C'est-à-dire, vous avez des classes où il y a des Tchétchènes, des enfants d'origine maghrébine, des Russes, des Biélorusses, tout ça, avec des clivages qu'on n'imagine pas ailleurs. Qu'est-ce qui peut fédérer tout ça, si ce n'est l'imaginaire, la culture, l'expression, le dialogue, le théâtre?
C'est vrai. Didier Van Kovelaert, j'espère que ça va inspirer une ville de Savoie, pourquoi pas, puisque nous irons dans un instant, juste après avoir écouté Full Sentimental. C'est Alain Souchon sur Europe 1.
9h, 11h, le club de l'été sur Europe 1, Lise Pressac.
Pas commercial. lavés hors d'usage et tristes et sans aucun avantage. On nous inflige des désirs qui nous affligent. On nous prend, faut pas déconner, déconner né, pour des cons alors qu'on est une foule sentimentale. Attirés par les étoiles, les voiles, que des choses pas commerciales. On nous Claudia Schiffer, on nous Paul Lou solidaire. Ah, le mal qu'on peut nous faire et qui ravage à la moqueur du ciel des vagues. Foule sentimentale, on a soif d'idéal.
C'était Alain Souchon sur Europe 1. Dans un instant, nous irons faire un tour en Savoie. A tout de suite.
9h, 11h. Le club de l'été sur Europe 1. Lise Pressac.
Il est 10h24, c'est la suite du Club de l'été sur Europe 1 avec Sophie Massieu et Sophie Muntz. Nous sommes toujours en compagnie de notre invité, l'écrivain Didier Van Kovelaert. Didier Van Kovelaert, vous avez choisi de partir en Savoie. Pourquoi vous êtes attaché à cette région, vous, le Niçois?
C'était le lieu de vacances et, ah oui, et plus que ça. Mon père avait grave problème d'arthrose et le seul moment où il ne souffrait pas, c'était pendant les cures à Aix-les-Bains. Donc du coup, il avait acheté une petite maison près du lac du Bourget. Et ça a été vraiment le bureau d'écrivain de mes premiers livres, quoi, dans le grenier. Donc ça c'est une mémoire toujours à vif, bien sûr, et mémoire de renaissance et les premiers risques courus en se lançant dans l'écriture d'un livre, le risque justement de laisser l'imaginaire prendre le pas sur le reste. Mais ce risque-là est une merveilleuse sécurité, en fait, une protection maximum.
Et vous parliez du grenier, c'est une image qui vous vient. Est-ce qu'il y a, en y pensant, là, à la Savoie, est-ce qu'il y a une odeur, est-ce qu'il y a une saveur quand vous pensez à cette
vous
région?
Vous pensez au reblochon, là?
Non, pas forcément. Non,
en tout cas, il commence à sentir.
C'est mon voisin, le reblochon.
Heureusement, il n'arrive pas jusqu'à moi pour l'instant.
Il n'y a pas que le reblochon en Savoie. Il y a aussi, au niveau des odeurs, la tartiflette.
Oui, aussi.
Mais il n'y a pas que le reblochon.
Mais je pensais, moi, ça pouvait être de l'herbe coupée. Voilà, les saveurs d'enfance, ce n'est pas forcément du reblochon.
Aussi, je peux vous parler de la cire d'abeille. Je peux vous parler de l'écorce de noyer. Je peux vous parler des pitosporums. Et je peux vous parler de plein de choses.
Et alors Sophie Massieu, elle va nous parler d'encore autre chose, un paysage à couper le souffle.
Mais
Sophie,
oui, c'est ça, le cirque du fer à cheval. Alors on est en Haute-Savoie et pas en Savoie, vous m'excuserez Didier de cette petite liberté. Laurent Vriez, vous êtes accompagnateur en montagne, donc vous y êtes allé, j'imagine, très très souvent. Bonjour monsieur.
Bonjour, alors, bonjour à toutes et à tous.
Bonjour.
Décrivez-nous ces belles falaises escarpées. Alors la forme a donné le nom, hein, bien sûr, au cirque, mais décrivez-nous un petit peu ces falaises qu'on y soit.
Bah écoutez, on arrive tout au bout de cette belle vallée, la vallée du Giffre, au cœur des montagnes du Giffre. Et puis, bah voilà, le paysage s'offre à nous, 2000 mètres de parois rocheuses qui s'élancent. Et ce cirque, cet ancien cirque glaciaire, effectivement, qui offre aux visiteurs là, un amphithéâtre rocheux parcouru de cascades, une trentaine de cascades sur le site. Et effectivement, vous disiez à couper le souffle, il faut quand même en garder un petit peu.
Oui,
la balade. Mais le paysage, c'est vraiment spectaculaire quand on arrive. On a ce décor qui saute tout d'un coup aux yeux et cette montagne qui nous regarde et en même temps qui nous accueille confortablement. C'est vraiment un site incroyable.
Alors, c'est du calcaire, hein, la roche. Et les cascades, il y en a plus ou moins selon les périodes de l'année, si j'ai bien compris. Selon la fonte des neiges, j'imagine.
Tout à fait, les cascades sont alimentées par la fonte des neiges. Quand on est sur de la roche calcaire, l'eau va ruisseler soit de manière superficielle à l'air libre ou alors elle va s'infiltrer dans la montagne. Et donc ces cascades sont alimentées par la fonte des névés et puis au fur et à mesure de la saison, en fonction des pluies aussi, ces cascades vont se réalimenter. Donc au printemps, ça explose, c'est un jaillissement incroyable et puis au fur et à mesure de l'été, ça va s'amenuiser. Elles sont encore bien alimentées là. Cet été, les cascades du fer à cheval.
Si on vient là, on en voit plusieurs.
Oui, tout à fait.
Bon, et alors par rapport au petit frère ou grand frère, le cirque de Gavarnie dans les Pyrénées, c'est lequel le plus beau ?
Ah, ben le plus beau.
quelle question difficile.
Ça va être le nôtre, mais les faciès sont bien différents. Le cirque de Gavarnie est connu pour une belle cascade principale.
Oui.
C'est vrai que c'est tout un cheminement. On est accompagné par toute une série de cascades de plus ou moins grande taille. Je crois que les deux sites se valent. Ce sont juste deux ambiances, deux histoires un petit peu différentes.
Alors, la visite du site est gratuite, mais le parking, lui, est payant. C'est une façon de participer à l'entretien de ce magnifique site naturel. L'Office du tourisme de Sixte-Fer-à-Cheval, le nom de la commune où se trouve ce cirque, peut vous donner toutes les informations utiles. Alors, on a aussi quelques événements à ne pas manquer hein, dans ce village cet été, et notamment, Laurent, une nuit celtique le 21 août.
Alors, effectivement, dans le cadre de notre programmation musicale de l'été, Musique au Jardin, qui s'installe tous les mercredis soirs dans les jardins de l'abbaye, abbaye du 12e siècle, eh bien, nous recevons toute une série d'artistes. Et pour clore cette programmation cet été, nous recevons une soirée celte avec des musiciens, danseurs irlandais accompagnés de leur cornemuse. Donc, une belle soirée festive au programme pour ce 21 août.
Ça y est, on s'est déjà mis en route.
Oui, c'est Merci. Bon, on en a oublié pour le 21.
Merci beaucoup Laurent Vriez et bonne journée.
Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin en direct sur Europe 1. Je rappelle que vous êtes accompagnateur en montagne. Dans un instant, Sophie Mounz va nous parler fromage de Savoie. Rendez-vous dans quelques minutes sur Europe 1.
9h-11h, le club de l'été sur Europe 1.
C'est la suite du Club de l'été en direct avec mes acolytes Sophie Massieu et Sophie Mounz. Et ce matin, nous sommes en compagnie de l'écrivain Didier Van Kovelaert. Est-ce que vous êtes gourmand, Didier Van Kovelaert ?
Oui,
sauf
quand j'écris. Là, je suis gourmand de mots, mais après... Oui.
Ça ouvre l'appétit.
Voilà, le seul moyen pour moi de garder la ligne, c'est d'en écrire des lignes. Parce que sinon, j'aime tellement la nourriture, le vin, tout ce... j'aime que les gens se donnent du mal pour faire plaisir, et la gastronomie et l'œnologie sont des vecteurs formidables.
Ça en fait partie. Et quelle est votre madeleine de Proust culinaire quand
les beignets de fleurs de courge.
Oh là là,
c'est plus niçois que savoyard,
oui.
Mais ça c'est
un
bonheur
absolu. Avec un peu de fleur
absolu. De sel. Oh là là, ouais, puis c'est du produit fragile, ouais. D'une fraîcheur absolue. Et puis, il faut pas mettre trop de pâte, faut pas que ça grésille trop longtemps.
Utiliser de la farine à tempura, ça c'est le petit truc.
C'est très difficile à réaliser. Bon, on va retourner un petit peu du côté de la Savoie avec vous. Dans un autre registre. Dites-nous, cette spécialité qui commence à embaumer le studio.
Ah oui, ça c'est les Montbéliards, là. Elles sont aux attaches.
Je les reconnais.
Je vais vous faire plaisir, Lise. Je vous ai apporté une dégustation. Elle m'a appris, figurez-vous, Didier, qu'elle ne supportait pas l'odeur du fromage. Vous imaginez ça?
Mais tant mieux, on mangera ça pas.
Ça relève de la psychiatrie, ça.
Vous croyez carrément? En tout cas, à cette distance-là, ça va. Mais l'approchez pas trop.
Didier, pour vous, dégustation offerte. Gracieusement par Europe.
Vous l'avez désodorisé parce qu'il est très
discret. On va parler.
Alors qu'il est bien coulant, il est à l'œil.
Oui, mais goûtez ça, il est bien fait. Le reblochon, évidemment, emblème de cette belle région de montagne. Pour nous en parler, Marie-Louise Danzel. Bonjour Marie-Louise. Bonjour.
À tous.
Bonjour. Vous êtes donc
Je suis à la Clusaz dans mes alpages, là-haut, dans la montagne.
Quelle bonne idée. Vous êtes la présidente du syndicat interprofessionnel du reblochon. Un fromage, ai-je découvert, né d'une maraude, racontez-nous.
Ouais. Ah, il est né d'une maraude. C'est vrai qu'aux environs du XIIIe siècle, nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents n'étaient pas propriétaires de ces chalets d'alpage où on est maintenant l'été.
Oui.
Ils louaient ces alpages à des moines, à des cloîtres. Et les seigneurs venaient un jour pendant la saison d'été mesurer la quantité de lait produit en une traite sur l'exploitation pour estimer le prix du fermage.
D'accord.
Et ce jour-là, les paysans de chez nous, pour payer un peu moins cher la location, faisaient une traite incomplète.
Les malins.
Et une fois le lait mesuré, les seigneurs repartis, eh bien, ils achevaient la traite des vaches. Donc, ils repinçaient le pied de la vache une deuxième fois en patois de chez nous.
La rebloche.
Frère, reblocher, rablacher. C'est comme ça qu'est né le mot reblochon, par cette action de retraire les vaches une deuxième fois.
Et ça donnait... Ça donnait, je l'imagine, un lait très, très riche, très crémeux.
Voilà, c'est ça. En fin de traite, le lait étant très riche, du coup, ils en faisaient un petit fromage pour la consommation familiale puisqu'ils ne l'avaient pas livré. Et ce lait riche faisait un fromage très doux et crémeux. D'où leur est venue l'idée de dire « Mais pourquoi nous, on ne ferait pas notre fromage ?» Et en 1958, alors donc du coup, bah aujourd'hui, le reblochon ne se fait plus avec le lait de la seconde traite, mais bien avec le lait de la traite totale.
Oui.
Et en 1958, nos parents ont pris leur bâton de pèlerin et sont allés voir l'INAO, l'Institut National des Appellations d'Origine, pour créer cette AOC qui est devenue maintenant une AOP.
Voilà, appellation d'origine protégée. Voilà. Alors soyons bien clairs, Marie-Louise Donzel, il s'agit d'un fromage au lait cru. Ça va faire toute la différence. Je vais juste ouvrir une toute petite parenthèse.
Ah oui, mais expliquez-nous quelle
différence. Le fait de pasteuriser les fromages, ce que font les industriels, c'est évidemment une garantie sanitaire. C'est éviter la prolifération de bactéries, de germes pathogènes. Bon, c'est ça l'idée. Le fait de garder le lait cru, alors effectivement, va permettre au lait de garder tous ces arômes, ça ne va pas tuer les arômes, donc un fromage au lait cru aura forcément plus de goût qu'un fromage au lait pasteurisé. Est-ce exact, Marie-Louise?
Bah oui, c'est vrai que le reblochon, toute l'AOP, dans le reblochon, c'est un fromage au lait cru. Et c'est un fromage qui a gardé toutes ses valeurs gustatives et qui est vraiment un pionnier dans les fromages à pâte molle. Donc du coup, voilà, on a toujours préservé ce que, dans l'AOP, nos parents avaient mis en place, donc, c'est-à-dire garder le lait cru. Quoi.
Alors, c'est un cahier des charges tout à fait précis. Des races de vaches autorisées, il y en a trois, l'Abondance, la Tarine, la Montbéliarde, c'est ça ?
Et bien sûr, voilà. Il y a trois races de vaches autorisées.
Et en ce moment, les vaches sont en alpage, c'est l'emmontanage. Eh bien, il y a effectivement cette tradition qui perdure.
Eh bien, voyons, tous les agriculteurs, les producteurs fermiers, déjà principalement, partent l'été au chalet d'alpage avec leurs troupeaux et fabriquent là-haut le fromage, le reblochon au chalet d'alpage. Et pendant ce temps, ça permet de libérer les terres dans la vallée pour faire du foin et être en règle avec le cahier des charges. Parce que dans un cahier des charges, on est bien dans un terroir, un territoire. Et donc, du coup, c'est important qu'on puisse faire notre foin pour la saison d'hiver. Donc, on libère les terres de la vallée et on part pâturer dans les alpages.
Donc, ce qui veut dire qu'en ce moment, les petites vaches sont nourries d'herbes sauvages, de fleurs alpestres, et ça va conférer un goût tout à fait particulier au fromage, bien entendu.
Bah ouais, si vous saviez cette herbe de montagne, comme elle est riche, comme elle est bonne pour les animaux, c'est vrai que c'est de l'herbe fraîche, tendre, dans la montagne, et ça joue vraiment un rôle dans l'onctuosité de nos reblochons.
Alors, il existe deux types de reblochons, arrêtez-moi si je me trompe, le reblochon fermier et le fruitier ou le laitier. Le fermier, ça veut dire que tout est produit à la ferme de manière manuelle, c'est ça ?
Alors, dans l'AOP reblochon, c'est 17 000 tonnes, on a le reblochon et on a dedans 3 000 tonnes de fermier. Donc, du coup, j'ai mangé votre question.
donc, en fait, ça veut dire que tout est produit au cœur d'une exploitation, chez un seul fermier, avec un seul lait.
Dans le reblochon, dans l'AOP, le lait, il est collecté dans les fermes et fabriqué dans des coopératives.
Les fruitières.
Pour le fermier, eh bien, il est fabriqué au lait frais à chaque traite, tous les matins, tous les soirs, dans les fermes. On a dans notre vallée 130 producteurs de reblochons fermiers.
D'accord.
Et à peu près 500 producteurs qui produisent du lait pour la fabrication du reblochon dans les coopératives.
D'accord. Voilà. Alors, pour la petite information, si vous avez affaire à un reblochon fermier, il est flanqué de la petite plaque en caséine verte.
Ah, c'est comme ça qu'on les reconnaît. D'accord.
Pour le fruitier, la petite plaque rouge. Vous le saviez, ça, Didier ?
Les couleurs de plaques, non.
Oui, ben voilà. Non, mais fermier, laitier, donc voilà.
Je serai vigilant,
en tout cas, ce sont des savoir-faire. Hein. C'est du lait cru. On le déguste comment, le reblochon, Marie-Louise ?
Ah, on le déguste en plateau. En plateau, à l'apéro, au plateau de fromage, c'est indispensable. On peut aussi faire des petites recettes cuisinées, mais c'est vraiment un fromage de plateau, le reblochon.
Bon, et à 10h38,
en tout cas, dans son studio, on l'a fait. Hein,
à 10h38. Non, il est très, très bon.
Et
quand même, je plaiderai pour le reblochon pané
la confiture d'Erel, c'est sublime.
Ah, vous avez raison, ça, c'est une recette savoyarde. Avec des petites recettes. Hein. Mais vous avez raison, c'est très bien.
Voilà, vive le reblochon. Merci beaucoup, Louise Donzel. Et belle journée dans vos alpages.
Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes présidente du syndicat interprofessionnel du reblochon. Et je vous propose maintenant de partir à la découverte de trois nouvelles destinations grâce à notre guide Sophie Massieu. A tout de suite sur Europe 1.
Le club de l'été. Deux heures de détente ensoleillée sur Europe 1.
Le club de l'été se poursuit en direct sur Europe 1 et jusqu'à 11h avec notre invité, l'écrivain Didier Van Kovelaert. Est-ce que vous voyagez beaucoup en dehors des salons, des dédicaces, que vous prenez un petit peu de vacances?
Oui, il y a des lieux, mais bon, les vacances sont plus riches quand elles sont liées à un lieu dont j'ai envie de raconter l'histoire, une chose qui me...
Ah, vous choisissez vos destinations en fonction des
aussi,
idées d'histoire que vous avez envie d'écrire.
J'aime demander quelque chose à un lieu et j'aime avoir rêvé sur ce lieu avant de le découvrir. C'est plus riche, quoi.
Bah vous savez quoi, on va vous donner trois idées pour peut-être de trois nouveaux romans, puisque tous les jours, Sophie Massieu nous propose trois destinations sur une même thématique. Alors, on reste en France et aujourd'hui, on part découvrir des espaces destinés à préserver notre environnement.
C'est pas l'homme qui prend la mer, c'est
et
la mer qui prend l'homme.
Des parcs naturels, mais pas sur terre, vous l'aurez compris, sur mer.
Ah, ben oui.
Et oui. Ou plutôt dans la mer.
Carrément.
Parce que oui, Lise, il existe bien des parcs naturels marins. Le premier a été créé en 2007. En
Bretagne, j'imagine.
Oui, mais je jure que je
n'y suis pour rien. C'est une obsession, Sophie Massieu.
C'est pas de ma faute. Il est au large du Finistère. Oui, déjà, j'ai lâché Saint-Malo.
Oui, c'est vrai.
J'ai réussi à le caser quand même pour parler du Finistère.
Oui, c'est ça.
Donc, ce parc, il est au large du Finistère. Et c'est donc de la mer d'Iroise. Ce petit bout du monde, si joli, vous savez, vers Ouessant, Molène,
oui.
Saint-Troisy-le-Breton, absolument magnifique. Alors, on dit que c'est le plus grand champ d'algues marines en Europe. Il y en aurait pas moins de 300 espèces.
Ah oui, quand même.
Mais bon, si ce sont les dauphins ou les phoques qui vous intéressent, peut-être aurez-vous la chance d'en voir si vous naviguez dans cet endroit. Seul, si vous savez skipper, ou si vous ne savez pas, sachez, Lise, que des promenades sont proposées au départ du Conquet. Ben oui, on ne veut pas vous perdre.
Je propose plutôt ça pour moi.
Et oui, Trimartolo, parce que la pêche traditionnelle y est assez largement pratiquée. Il faut dire qu'on y trouve notamment de délicieux homards ou tourteaux.
Alors, je suis désolée, on va changer de région, hein, Sophie Massieu, il faut quitter votre Bretagne. Autre région et autre ambiance.
Oui, mais on va dans un endroit très joli quand même. Direction la Picardie, absolument, pour découvrir le parc naturel des estuaires Picard et de la mer d'Opale. Une région dont on a un peu moins parlé, c'est vrai, et pourtant c'est vraiment très joli. Alors, comme le nom l'indique, le paysage est différent, notamment en ce qu'il compte pas moins de 7 fleuves côtiers. Parmi eux, la Somme, bien sûr, mais aussi l'Authie, dont la baie, je l'ai parcourue en rando, est absolument magnifique. Alors, là encore, on compte un grand nombre d'espèces végétales et animales, des mammifères aux poissons, bref, vraiment, il y a beaucoup de choses à voir. Sur les plages, on peut ramasser les salicornes. Vous connaissez, Sophie, les salicornes?
C'est de l'algue.
Algues. C'est une espèce d'algue,
c'est
effectivement.
C'est une plante marine, c'est
extrêmement en salade.
Oui,
en salade, ou alors ça accompagne aussi des viandes, l'agneau de présalé, paraît-il.
Ah,
moi, je ne suis pas fan, mais voilà, en tout cas, ça va très bien avec, paraît-il. Alors, autre façon de découvrir ce parc, une fois qu'on a ramassé les salicornes, c'est évidemment aussi les sports nautiques, ou alors tout près, sur les plages de la baie de Somme, qui s'y prête vraiment tout particulièrement et qui le longe, c'est le char à voile. Bon, à condition qu'il y ait du vent, parce que moi, j'ai pas de bol à chaque fois que je tente.
C'est vrai, il n'y a pas de vent,
c'est
quand vous y allez.
Il n'y a rien. Les coureurs à pied peuvent aussi gambader en juin à marée basse pour faire la traversée de la baie de Somme. C'est une course qu'on appelle la Transbaie. Je l'ai faite, c'est très très amusant, mais je vous préviens, on revient, mais alors pouilleux.
Bon, c'est
de
pas grave.
Pouilleux. Enfin, pourquoi pas, il est aussi possible de survoler tout ça en parapente. Vous voyez, les bonnes idées ne manquent pas. Didier, ça va peut-être vous inspirer. Et les modes de découverte, il y en a plein aussi.
Et alors, dernière escale en Méditerranée.
En effet, on va prendre quelques degrés supplémentaires. Et on fait un dernier plouf, cette fois-ci dans le parc du Golfe du Lion, dans les Pyrénées orientales. Alors lui, sa particularité, c'est de comprendre trois canyons sous-marins. Et puis côté flore, on y trouve les fameux herbiers de Posidonie, tellement typique de la Méditerranée. Alors pourquoi ne pas vous initier à la plongée pour les approcher au plus près? Mais attention, on ne touche pas.
Bah
on
non.
regarde, mais on ne touche pas parce que c'est hyper fragile et l'écosystème méditerranéen, il est fragile et malmené, comme vous
c'est
savez.
Vrai. Vous prenez la Méditerranée, la Picardie ou la Bretagne, Didier Van Kovelaert, comme
Attention Didier, est-ce que vous
La Méditerranée, je la prends souvent.
Bah
donc
oui.
Là, je vais la baie de Somme, ça fait longtemps que je suis parcourée. C'est un lieu magique.
Peut-être une prochaine histoire là-bas. Alors, mais quel esprit d'à-propos vous avez, Sophie, puisque vous nous proposez ce matin une application qui s'appelle Share My Sea.
Vous savez que j'y réfléchis quand même.
Bah, je vois qu'il y a du travail derrière tout ça. Hein.
Alors, le principe, c'est de mettre en relation des plaisanciers, qu'ils aient ou non des bateaux pour organiser des sorties.
Ah, combien ça ?
Mais absolument, c'est une espèce de blablacar de la mer.
C'est
en
bien.
Fait,
hein.
Donc, vous êtes géolocalisé, puis une fois que vous avez cette application téléchargée dans votre petit téléphone, vous pouvez voir ou proposer au choix, selon que vous êtes keeper ou non, que vous avez un bateau ou non, des sorties en mer et que ce soit ou bien pour pêcher ou bien pour hisser les voiles.
Ah, c'est bien, donc on peut y aller même quand on n'a pas de bateau et juste venir profiter du bateau
même
de quelqu'un.
Même quand on n'y connaît rien.
Ah, c'est génial, bon, bah, c'est super, on va se faire de nouveaux amis avec cette application.
Oui.
Vous retrouvez évidemment toutes les références des contenus dont on vous parle dans le Club de l'été sur le site d'Europe 1. Et s'il vous manque une information, bah, vous n'hésitez pas, vous écrivez
on
sur
vous
Twitter, vous écrivez
grand
à Sophie
plaisir.
Moons, à Sophie Massieu ou à moi, on vous répondra. Dans quelques minutes avec Sophie Moons, on continue notre semaine consacrée aux confitures. Et avant ça, on va écouter une cassette. Je dis une cassette. Didier Van Kovelaert, parce qu'il paraît que Mylène Farmer est coincée dans votre autoradio de voiture.
Ben oui, en Savoie, parce que c'est un petit chalet d'alpage où je vais faire du ski de fond. Et là-bas, il y a un vieux 4x4 pour aller dans la neige. Et dedans, il y a Mylène Farmer. Je ne peux plus sortir la cassette, mais chaque fois que je tourne la clé, là, chez Mylène Farmer, notamment cette chanson.
Sans contrefaçon,
ouais, bah, voyez, Chevalier
d'Éon. Ça tombe très bien. On est en Savoie avec l'audio cassette et Mylène Farmer sans contrefaçon sur Europe 1. Mylène Farmer, sans contrefaçon sur Europe 1. On se retrouve dans un instant pour la suite du Club de l'été.
9h, 11h.
Le Club de l'été sur Europe 1.
Ah, c'était dur ça.
De quoi ?
Je vais vous expliquer, c'est un petit plaisir personnel.
Je vois ce que tu veux, Zéra. As-tu une coquille, toi ?
Lise Pressac.
Merci Loïc, ou pas merci, je ne sais pas s'il l'assume celui-là de jingle personnalisé. Le Club de l'été se poursuit avec notre invité, l'écrivain Didier Van Kovelaert. Est-ce que vous cuisinez? Apparemment vous aimez manger, mais est-ce que vous aimez aussi faire à manger?
Oui, mais en toute modestie, parce que quand on connaît des gens qui cuisinent bien, après on a honte. Donc
oh mais non, il ne faut jamais, il faut assumer. Vous faites
quand,
quoi?
Quand je travaille tout seul, je cuisine pour... voilà. Les beignets de fleurs de courgettes, c'est pas ce que je réussis le mieux.
Parce c'est difficile
que,
en même temps.
Voilà, donc tout ce qui est simple et qui, en même temps, ne cause pas le problème majeur de l'écrivain, c'est la fatigue de la digestion. Quoi.
Ah, mais c'est terrible. Donc, vous arrivez à écrire après avoir mangé? Non, mais parce que c'est un vrai problème.
Il faut beaucoup travailler avant le plus tard possible. Ouais. Et puis, donc, il y a tout. Alors après, bon, je cuis énormément d'endives, quelque chose dont on peut faire des choses merveilleuses.
C'est vrai.
Et là, il n'y a aucun problème de fatigue.
Vous le dites plus à la belge.
Et puis,
le chicon,
voilà. Merci de me ramener à mes sources.
Mais oui, c'est important. Sophie Moons, alors vous allez quand même faire plaisir un petit peu à Didier Van Kovler, parce que vous parlez de confiture, mais confiture un peu spéciale.
Bah, je ne sais pas si je vais lui faire plaisir après tout.
Avec la tomate?
Non.
Ah bon, avec la courgette?
Courgette de Nice.
Avec courgette de Nice, ah bah...
Mais oui, mais vous savez, alors hier on a entamé cette série... passionnant, oui, que le monde entier nous envie.
Mais vous allez voir qu'ils vont parler de confiture, le Parisien, la semaine prochaine.
Hey, c'est dingue. Non, mais alors j'ai reçu beaucoup de réactions d'auditeurs et d'auditrices, mais beaucoup d'auditeurs d'ailleurs, qui me demandaient, vous avez parlé du sucre.
Oui.
Je rappelle que pour une bonne confiture, il faut
moitié,
de bons
moitié.
Fruits. Il faut du sucre, il faut du citron, il faut du gélifiant. Le gélifiant n'est évidemment pas obligatoire. Certains fruits, je vous l'ai expliqué, sont dotés en abondance de pectine. Je pense à la pomme, à la framboise, etc. D'autres un petit peu moins. Donc là, vous pouvez rajouter de la pectine, vous pouvez rajouter un sucre spécial confiture. Ou alors, un petit truc, ce sera juste la petite parenthèse, vous récoltez les pépins de pomme que vous mettez dans une petite boule à thé et vous mettez ça dans la cuisson de votre confiture et ça va libérer de la pectine naturelle.
Oh, c'est génial, ça, je ne savais pas.
Merci Europe 1.
Merci Sophie Moon surtout.
Voilà, pour les petits conseils, vous n'hésitez pas, je vous les donnerai tout au long de la semaine. Bon alors aujourd'hui, on va faire la courgette puisque je vous savais amateur de fleurs de courgette. Mmh. On va garder évidemment ce bon fruit parce qu'il s'agit quand même d'un fruit, hein, faut quand même le savoir. Alors, je me suis dit que j'allais la cuisiner avec des herbes aromatiques du jardin. Didier, si on mettait du basilic et un petit peu de menthe dedans, ça vous dit?
Un petit peu de coriandre aussi.
On pourrait.
Ah, attention, ça va être un sujet de débat apparemment. Ouais. Vous n'êtes pas forcément d'accord sur ce. Bon.
Prenez les herbes aromatiques du jardin, celles qui vous feront plaisir. Vous allez prendre de belles courgettes. Attention, si vous êtes en ce moment en train de les cultiver, les courgettes, un petit conseil, ne les laissez pas trop grandir dans le potager. Plus elles seront grandes, XXL, au moins elles auront de goût et au moins elles auront de texture. Donc récoltez-les à, bon, je dirais... dimension de ce qu'on trouve en supermarché.
D'accord.
C'est là qu'elles seront les plus gorgées de sucre, etc. Donc, vous allez prendre pour, je dirais, 5-6 pots, 1 kg de belles courgettes, 600 g de sucre cristallisé, 2 citrons, indispensable citron pour l'élaboration de vos confitures, et vous prenez un petit mélange donc d'herbes du jardin. Prenons du basilic et de la menthe fraîche que vous allez détailler menu.
D'accord.
Mon petit plus, des zestes de citron. En plus, ça tombe bien, le citron va aussi libérer de la pectine, donc ça va permettre à la confiture de bien prendre. Donc vous allez prendre vos courgettes, vous allez les couper en petits morceaux. Pas trop petits, il faut quand même un tout petit peu de mâche. Vous allez, le premier jour, donc aujourd'hui, mettre dans une grande bassine ces courgettes coupées en morceaux avec les 600 g de sucre cristallisé.
D'accord.
Vous mettez un film plastique par-dessus et vous laissez reposer une nuit. Pourquoi ? Ça va permettre déjà un confisage naturel, doux, lentement. Vous savez, c'est ça la douceur, la lenteur dans la cuisine, elle est essentielle, hein, Didier. Demain matin, vous vous réveillez, vous allumez Europe 1.
Oui.
La vie est belle. Vous prenez votre bassine qui aura donc déjà
bien confiture. C'est très important parce que sinon la confiture n'a pas le même goût. On précise aux auditeurs.
Ça le fait pas.
C'est comme la pectine, c'est indispensable dans la confiture Europe 1.
Voilà. Et vous allez mettre donc ce confisage dans votre bassine de cuivre. Je l'ai expliqué, c'est beaucoup mieux.
Ah oui, mais ça y est, mieux, oui, on s'est équipé depuis lundi.
Vous allez porter à ébullition cette petite préparation. Jusque-là,
tout va bien.
Allez, vous entendez, petite bulle. Bon. Ensuite, vous allez baisser le feu et vous allez faire cuire ça plus ou moins 2h, 2h30.
D'accord.
Je dirais que le truc, c'est de goûter. Vous allez voir un petit peu la texture au fil de la cuisson et vous arrêtez à partir du moment où vous sentez que votre confiture prend la bonne consistance. Le petit truc des professionnels, si vous n'avez pas de thermomètre, on considère en fait qu'une confiture, elle est cuite à 105 degrés. D'accord ? Donc, si vous avez le thermomètre, vous le plongez. Si c'est 105, c'est bon. Sinon, vous prenez une petite coupelle à tasse, hein, que vous mettez dans le frigo et vous allez verser un petit peu de confiture dessus. Vous allez redresser la coupelle. Si la confiture ne coule pas trop, elle est bien gélifiée. Vous arrêtez la cuisson.
Ah, mais c'est dingue, ça, vous saviez, ça, monsieur ?
Non, voilà.
Je suis contente de les manger.
Vous aurez mis donc dans cette confiture vos herbes du jardin, vos zestes de citron, vous mettez en pot. À ras-bord, le plus à ras-bord possible.
Ouais.
Vous fermez bien, je rappelle que les pots doivent être stérilisés, c'est toujours mieux. Vous les retournez et basta.
Oh là là, vous saviez c'est ce que c'est Didier Van Coverte ?
Voilà. Non mais j'ai hâte de goûter.
Bon, mais je vous emmène faire une dégustation.
Oui, bah, donc il faut prendre ses précautions. Il faut voilà, on peut pas avoir une envie soudaine de confiture de courgettes. Il faut aussi prendre à l'avance.
Bah, c'est mieux de prendre son temps. Oui. Mais c'est évidemment. Ça la beauté de la vie, prendre le temps.
C'est vrai. Mmh. Alors si vous testez les recettes de Sophie Moon, c'est évidemment vous nous envoyez vos créations avec sur photos. Twitter avec photos que ce soit jolie ou non. L'essentiel c'est que ce soit bon. Et vous n'hésitez pas, elle se fera un plaisir de répondre à toutes vos questions. Merci Didier Van Kovelaert d'avoir passé ces deux heures en notre compagnie. C'était un plaisir. Je rappelle que votre roman La Personne de Confiance est toujours disponible aux éditions Albin Michel, Sophie Massieu, Sophie Mounce. On va se retrouver demain avec notre invité l'écrivain Marc Lévy. Nous irons faire un tour dans les Alpes-Maritimes. On retournera du côté de Villefranche-sur-Mer. Ah. Un grand merci à vous auditeurs. Vous pouvez revenir Didier si vous voulez.
Oui, oui, oui.
Un grand merci à vous auditeurs qui nous envoyez des cartes postales. L'adresse du club, c'est 2 rue des Cévennes dans le 15e à Paris. On salue notamment Sylvie qui est une fidèle auditrice qui nous a écrit de la Costa Brava. Il y a également Nathalie qui nous a écrit du Loir-et-Cher. Et puis il y a également Jérémy et Audrey La Tranche-sur-Mer. On adore nous les cartes postale, ça fait de l'ambiance un petit peu dans notre bureau. Merci infiniment à vous tous. Je vous laisse en compagnie d'Anne Roumanoff. Très bonne journée à l'écoute d'Europe 1.